Et c'est avec plaisir qu'on le retrouve en ce début d'année, Olivier Beauregard, pour jeter un coup d'œil à ce qui se passe dans le monde du sport. Olivier, bonjour et bonne année tout d'abord.
Ben bonjour, bonne année à toi, bonne année aux auditeurs également. Très content d'être de retour parmi vous.
Plusieurs sujets sur la table pour amorcer cette année. Tout d'abord, ben allons-y équipe par équipe, commençons avec le Canadien de Montréal, pour qui ça va bien comme c'est là.
Oui, absolument. Puis ça a l'air facile de dire ça après une victoire contre les Flames de Calgary, mais je pense que le Canadien de Montréal a trouvé vraiment une recette là qui semble fonctionner à l'interne. Il y a eu des acquisitions qui se sont faites cette année. Je pense que l'éclore puis ce que les jeunes sont en train de donner à cette équipe-là est en train de prendre forme. Là, j'ai vraiment l'impression que le Canadien est sur les bonnes pistes. Puis c'est drôle, hein, parce que je vous parle de ça, puis on n'a pas eu la chance de se parler pendant l'automne, mais le retour de Philippe Danault à Montréal, entre autres, l'acquisition d'Alexandre Texier, puis qui fait un travail formidable avec le Canadien, ben sont deux ajouts de taille avec les blessés de Newhook, de Laine. Il y a tellement de joueurs au sein de la formation du Canadien qui ont été blessés depuis le début de l'année qu'on aurait pu s'attendre à une chute aux enfers. On a eu un peu la frousse là dans le mois de décembre, fin novembre, début décembre, parce qu'on s'est dit « OK, le Canadien est en train de piquer du nez », mais finalement, se sont sortis la tête de l'eau, puis je dois lever mon chapeau à Kent Hughes qui a encore fait un job incroyable. Tu sais, l'acquisition d'abord d'Alex Texier, écoute, c'est un gars qui coûte 1 million sur ta masse salariale et en ce moment, il joue sur les deux premiers trios à Montréal. C'est une année de contrat, c'est un risque qui valait la peine. On connaissait son talent brut, c'est-à-dire ses qualités de feinté, etc. Tu sais, je veux dire, c'est un gars qui, dans le jargon du hockey, a de très bonnes mains. Mais on n'était pas certain nécessairement de ce que ça allait donner. Puis faut le donner à l'organisation. Depuis son arrivée, son apport avec l'équipe est important, tellement qu'il joue sur un premier ou sur un deuxième trio. Puis à toutes les fois, ben il est capable de tirer son épingle du jeu. Donc chapeau à Kent Hughes encore une fois, qui a vu juste avec son équipe de recruteurs. Évidemment, Philippe Danault, qui est de retour à Montréal lui aussi. Ça fait un petit peu plus jaser, Sébastien, en raison du salaire que commande Danault. Mm-hmm. Tu sais, on parle d'un contrat de 5,5 millions de dollars par année. Ça fait en sorte que le Canadien, cette année et l'an prochain, sont aux prises avec un salaire qui est quand même assez important, celui de Philippe Danault. Il ajoute à ça Brendan Gallagher, qui a un salaire de plus de 6 millions de dollars. C'est des gars qui vieillissent, mais on a comme remarqué chez le Canadien qu'il manquait peut-être quelques pièces pour pouvoir, puis peut-être un peu plus de vétérans là, pour pouvoir encadrer les jeunes. Je ne sais pas à combien de temps Philippe Danault peut encore être utile, mais je regardais le match d'hier contre les Flames de Calgary. Écoute, je pense qu'il est 14 en 16 au cercle des mises en jeu, là, quelque chose comme ça. C'est un apport qui est hyper important pour une organisation, puis je pense que son retour à Montréal arrive à point, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de discussions au sujet des ligues de centre. Oui, évidemment, Kapanen fait un travail extraordinaire, Nick Suzuki pas besoin d'en parler, mais je pense qu'on avait besoin d'un autre centre de qualité, gaucher d'autant plus parce que Kapanen et Suzuki sont droitiers. Donc l'arrivée de Danault arrive à point. On verra ce que Kent Hughes va faire justement avec le jonglage salarial une fois qu'il va être rendu là, parce que le salaire de Phil Danault fait en sorte que l'équipe là est un petit peu au-dessus de la masse salariale. Okay. Mais la période des transactions s'approche. J'ai bien hâte de voir ce que le Canadien va faire à ce niveau-là. Mais chapeau. En somme, je pense qu'il y a eu la situation des gardiens qui a été compliquée. Sam Montembeau qui n'a pas connu le début de saison qu'il voulait. On a jonglé avec Dobège. On a amené Fowler également au sein de l'organisation. Écoute, il y a un ménage à trois pour l'heure actuelle. Je pense pas que ça va durer encore plusieurs semaines. Mm-hmm. Mais chose certaine, le Canadien est en train de remanier ses cartes et on peut s'attendre à voir le Canadien en série en 2026. En tout cas, c'est l'impression qu'il nous donne jusqu'à présent.
Pour les Sénateurs, ça va moins bien par contre.
Ouais, eux autres, on pourrait les enlever du portrait des séries si ça continue comme ça, parce que c'est... écoute, c'est une descente aux enfers, malheureusement. Puis ça part encore une fois de la situation du gardien. Tu sais, Linus Ullmark, là, il a été acquis chèrement par les Sénateurs d'Ottawa. Il est arrivé de Boston. Il connaissait vraiment une très, très belle saison, une belle séquence même. Il se partageait la tâche avec Jeremy Swayman là-bas. Il a fallu qu'on se départisse d'un gardien parce qu'on avait deux gardiens numéro un. T'arrives à Ottawa, du côté des Sénateurs, on pense qu'on a enfin trouvé un gardien numéro un digne de ce nom-là. Et là, Ullmark n'a pas été capable d'arrêter un ballon de plage cette année. Des performances vraiment dans le scie, tellement qu'il a dû se retirer de l'équipe. Il est toujours retiré de l'équipe à l'heure où on se parle. On dit qu'il avait besoin de temps pour lui. Et là, tu donnes le filet à Mirelainen et Matt Sogard. Et pour l'instant, malheureusement, ben c'est des gars qui, oui, sont capables de t'en donner à t'en donner, mais je peux pas dire que c'est des gars qui peuvent être partants soir après soir, et c'est ça le problème. C'est là le nerf de la guerre. On l'a vu hier, les Sénateurs qui se sont inclinés contre les Mammouths de Utah. Je pense que les Sénateurs, pendant le match, ont dû frapper à peu près trois poteaux. On a eu, des deux contre un à profusion. Ça a été un match où les Sénateurs auraient dû capitaliser sur leur chance et prendre le contrôle de ce match-là contre les Mammouths. Et finalement, on n'a pas été capable de le faire. Et du côté de Utah, ben, on a été tellement opportunistes parce que probablement que au niveau d'entre les poteaux, disons ça comme ça, c'est un peu moins fort. On a été capable de concrétiser ces buts-là. Et alors, les Sénateurs se sont inclinés. Écoute, c'est pas compliqué. Les Sénateurs, c'est deux victoires lors de leurs sept derniers matchs. Ça fait en sorte que là, eux, ils baissent tellement dans le classement. Puis c'est un classement qui est excessivement serré là, cette année. Il faut le dire, il y a une bataille pour les séries éliminatoires. Les équipes se battent pour une place. Puis les Sénateurs peuvent pas se permettre de connaître de mauvaises séquences, surtout que dans la division S, les équipes se battent pour une place. Puis quand je vous dis ce bas-là, c'est pas juste au sens figuré. Là. C'est des équipes qui, soir après soir, en donnent pour pouvoir rester dans le portrait des séries. Et là, malheureusement, les performances des Sénateurs jusqu'à présent ne répondent pas aux attentes. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire du côté des Sénateurs. Est-ce qu'on va être un peu vendeur à la période des transactions puis se dire on va faire quelques mouvements de personnel? Parce qu'une chose qui est sûre, après avoir participé aux séries l'an dernier, les Sénateurs, on s'attendait à beaucoup plus d'eux cette année. Et là, on a peut-être... on est peut-être en voie de ne pas faire les séries éliminatoires. Puis à Ottawa, ça serait le temps qu'on soit en série puis pendant plusieurs saisons. Alors, à suivre, je pense que Steve Staios ne restera pas les bras croisés très, très longtemps comme directeur général avec les Saints.
Sinon, ce que tu suivras en fin de semaine, ben, c'est le début de ces éliminatoires dans la NFL.
Ah, ça commence à sentir les ailes de poulet, mon ami, parce que ça part en fin de semaine. Meilleur temps de l'année. Oui, j'ai hâte de voir. Il y a plusieurs confrontations intéressantes. C'est un portrait des séries qui, quand même, on se le cachera pas, là, quand même spécial cette année. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu autant de variété parce que, je m'explique, les Chiefs de Kansas City sont pas dans le portrait des séries éliminatoires. Écoute, depuis plusieurs années, c'était comme impossible de penser que les Chiefs n'étaient pas en séries éliminatoires. Mais là, on le sait, les déboires de Pat Mahomes, Travis Kelce, qui a eu une saison difficile en raison de blessures, qui lui, là, a justement dit récemment qu'il fermait pas la porte à un retour l'an prochain, mais qu'il pouvait aussi annoncer sa retraite en raison de nombreuses blessures. Bref, ça a brassé à Kansas City, puis ça a fait en sorte qu'ils sont pas dans le portrait des séries. Les Lions de Détroit, qui sont pas là non plus, qui avaient de grandes attentes. Les Ravens de Baltimore, écoute, il y a tellement d'équipes qui sont pas dans le portrait que ça fait en sorte que ça devient intéressant. Alors, des confrontations, regardez, ben évidemment, moi je pense qu'il y a des gens qui vont jeter un coup d'œil sur ce que les Steelers de Pittsburgh vont faire contre les Texans de Houston, parce que c'est Aaron Rodgers, puis parce que les Steelers ont un nouveau souffle avec Aaron Rodgers comme corps arrière, et ils l'ont prouvé cette année. Il y a Jacksonville également contre les Bills de Buffalo, qui on s'attend vraiment à un choc de titan. Pourquoi? Parce que les Jaguars ont terminé l'année de façon phénoménale. Moi, je m'attendais même pas à les voir dans le portrait des séries cette année. Puis c'est comme si, du côté de Jacksonville, on avait trouvé, je sais pas, on avait bu une potion magique, puis on a décidé de commencer à jouer au football au bon moment. Mais c'est une équipe qui a connu, somme toute, une bonne fin de saison. Les Patriots, qui ont une année fantastique également, qui vont affronter les Chargers. Et de l'autre côté, des Panthers et des Rams, je pense que ça va être une bonne confrontation. Les Panthers sont entrés un peu par la porte d'en arrière, vont affronter les Rams. Je pense que les Rams vont être capables de remporter ce match-là. Il y a les Eagles qui sont toujours très, très dangereux contre les 49ers. Une très, très belle confrontation à suivre. Et les Bears qui finalement sortent de leur trou noir et arrivent en série contre les Packers de Green Bay. Bref, ça nous donne du très, très beau football pour le premier week-end. Je pense aussi que c'est difficile cette année, puis ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, là, mais c'est difficile cette année dans la NFL de définir des gagnants déjà, parce que les Broncos et les Seahawks qui profitent d'une pause, eux, passent directement à la prochaine ronde au championnat de conférence. Mais pour l'instant, quand on regarde le portrait des séries dans des séries de division, ça va être très, très très intéressant.
De toute façon, on ne te demandera pas de prédiction avant les jours précédant le Super Bowl. On va te laisser le temps de te faire une tête.
Ne m'en va pas avant le Super Bowl parce que pour l'instant, au moment où on se parle, je ne peux même pas te dire qui va être là.
Ce qui est une bonne chose. Je trouve ça bon pour le sport de ne pas savoir.
Oui, absolument. Puis c'est comme je te dis, il y a tellement de variétés. On ne peut pas déterminer de gagner avant le temps. Ça fait combien d'années, Seb, qu'on se parle de football puis que les Chiefs rentrent en série puis on risque de les voir au Super Bowl puis voyons voir qui sera leur adversaire. Mais au final, ça risque d'être les Chiefs qui lèvent le trophée Vince Lombardi. Cette année, honnêtement, je ne sais pas, mon cœur voudrait que ce soit les Bills de Buffalo, mais ma tête me rappelle qu'à chaque année, les Bills me déçoivent en série malgré des saisons fantastiques, alors je ne me fais pas d'attente.
On s'en reparlera de ça dans une couple de semaines quand le portrait sera un peu plus clair. Puis en terminant, Olivier, tu veux faire un retour sur ton classique du temps des fêtes année après année. Non, c'est pas ciné cadeau, mais c'est bien le Mondial Junior.
Ben, il y a ciné cadeau aussi, mais ça serait pas nécessairement approprié pour notre chronique. Mais oui, le Mondial Junior, écoute, je regarde ça à chaque année et j'ai senti cette année pour la première fois depuis que je suis tout jeune, qu'il y a eu un désintérêt de ma part en raison des performances de l'équipe canadienne. J'ai été très, très déçu de ce tournoi-là. Encore une fois, pour une troisième année consécutive, le Canada qui remporte pas de médaille d'or. Ils ont remporté une médaille de bronze cette année. Mais on a senti qu'il y avait quelque chose qui clochait quand ils ont affronté les Lettons. La Lettonie, qui est pas une superpuissance, qui se battent pour rester dans le groupe A et qui ont finalement pas été en mesure... de le remporter contre le Canada, mais qui ont donné une solide rivalité. Puis là, quand on regarde ce que la Tchéquie a fait depuis quelques années, écoute, cette équipe-là est en train de montrer que c'est pas parce qu'on est 35 000 joueurs de hockey dans notre pays qu'on en affronte un pays qui en a 600 000, qu'on est moins bon, que notre développement est moins bon, parce que la Tchéquie, rappelle-toi, la dernière médaille du Canada à Halifax, ça avait été gagné en finale durement contre les Tchèques, et ça fait 2 ans de suite que les Tchèques éliminent le Canada, et cette année, ben, ils les ont éliminés. Le Canada a été capable d'aller en ronde des médailles, puis de remporter une médaille de bronze, mais honnêtement, c'est vraiment une performance qui est en deçà des attentes, puis pourtant, on nous avait vendu que Dale Hunter allait réinventer la roue et replacer le hockey au sommet, Hockey Canada au sommet des confédérations de hockey. Et finalement, cette année, ben regarde, oui, il y a une médaille après avoir raté le podium, mais il y a une médaille, mais une médaille de bronze au Canada, Sébastien, tu sais comme moi que ça veut rien dire. Tant que ça, on est mieux de pas en avoir pantoute, parce que nous, au Canada, c'est l'or ou rien. Et cette année, je pense vraiment que là, il va falloir qu'il y ait des questions qui se posent. Ça me démoralise de vous dire ça encore une fois, parce que j'ai l'impression que ça fait 3 ans que je vous dis ça, mais là, il y a des questions qui doivent se poser, à savoir si c'est pas le coach, parce que l'année passée, on a blâmé beaucoup la défaite du Canada sur Dave Cameron, qui est entraîneur-chef. Cette année, on blâme pas Dale Hunter, puis pourtant, on disait que c'est lui qui allait ramener ça, et il a pas été capable. Alors moi, je pense que c'est plus un problème de structure, je pense que c'est aussi un problème de sélection. Je m'explique bien mal qu'il y a des joueurs du Canada qui ont pas été sélectionnés avant d'autres. J'ai comme l'impression qu'il y a des préférences. Il y en a eu toujours eu, puis il va toujours en avoir. Il y a le franco-anglo aussi, qui est un débat quand même important. Un seul joueur représentant de la LHGMQ avec l'équipe canadienne cette année, en Caleb Desnoyers. Écoute, il y a plein de questions à se poser sur la sélection d'Hockey Canada, sur la façon de faire les choses. Mais il y a une chose qu'on sait, par contre, qui est factuelle, c'est que l'équipe ne délivre pas la marchandise comme on se doit de la délivrer. Est-ce que c'est aussi un problème de développement, Sébastien? Ça, c'est une belle question à se poser. Est-ce que le Canada, on en fait suffisamment dans notre développement au niveau du hockey pour amener pour garder cette, si tu veux, superpuissance-là, ce type de superpuissance-là qui a accompagné le Canada pendant tellement longtemps. Je sais pas. Il y a beaucoup de questions à se poser par rapport à ça. Et tu vois, dès que le Canada est éliminé, ça a été quoi les éditoriaux dans plusieurs journaux qui suivaient un peu ce qui se passait? Mais c'était ça. Que fait-on avec l'équipe canadienne pour les prochaines années? Parce que là, c'est inacceptable. Ça revient au Canada l'an prochain à Red Deer et Edmonton. Et le Canada en sol canadien doit absolument connaître du succès.
Ben oui.
Ottawa, l'année passée, ça a été une catastrophe. Là, on n'a même pas eu de podium. Alors, je m'attends à voir le Canada l'an prochain avec une formation renouvelée, peut-être une façon de faire renouvelée aussi, parce que honnêtement, ça commence à être gênant un petit peu à l'échelle nationale, internationale plutôt, ce qu'on fait en termes de performance hockey. La bonne nouvelle, se termine là-dessus, c'est qu'on va pouvoir se consoler avec les Jeux olympiques qui s'en viennent très bientôt. L'équipe canadienne a été dévoilée. Je te dirais que toutes les équipes de hockey ont été dévoilées, mais je pense que ça va être très intéressant. Moi, je regarde l'alignement de l'équipe canadienne. Je suis très, très excité. Puis chapeau à Nick Suzuki, capitaine du Canadien de Montréal, qui a réussi à se tailler une place. Je pense qu'il ne l'a pas volé. C'est grandement mérité, mais ça va être très, très excitant de suivre ça. On va avoir l'occasion de s'en reparler pas mal.
Absolument. Olivier Beauregard, un grand merci pour ton temps aujourd'hui, puis à la semaine prochaine.
Absolument. Merci. Bye-bye.